Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Bien, quelle est la procédure d'octroi du permis de construire en RDC? Vous savez, toute personne qui veut construire une maison, un immeuble, un château d'eau, des pylônes en béton ou autre doit obtenir au préalable un permis de construire qu'on appelait avant permis, qu'on appelait autorisation de bâtir. Et c'est là auprès de l'administration de l'urbanisme et habitat. Cependant, cette autorisation est de plus en plus délivrée sans tenir compte des normes de sécurité, de santé, d'hygiène, d'esthétique et ça ne répond plus sans tenir compte des normes environnementales. Alors, cela a des conséquences non négligeables sur la commodité des maisons construites, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Alors, quelle est la procédure à suivre? Quelles sont les exigences, les préalables auxquels il faut répondre avant d'obtenir, pour obtenir un permis de construire? Eh bien, nous aurons les détails par rapport à cela avec notre invité, l'ingénieur Michel Ouyumbu. Je l'ai présenté tout à l'heure comme étant le président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP de la RDC. Ingénieur Michel, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Joudy.
Alors, nous parlons de la procédure d'octroi ou d'obtention du permis de construire. D'abord, c'est quoi un permis de construire?
Merci beaucoup, monsieur Joudy, pour cette invitation. Merci vraiment de nous associer à ce débat très, très utile pour notre pays. Et au nom de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, CNIB BTP en sigle, je remercie toute l'équipe pas seulement de l'émission, mais de Radio Capi pour des thématiques très, très, très intéressantes. D'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est qu'un permis de construire? Un permis de construire, c'est une autorisation administrative obligatoire qui permet à toute personne, je dis bien toute personne, physique ou morale, toute personne publique ou privée, d'édifier une construction. Je dis bien une construction, je ne dis pas un bâtiment. Je dis très bien une construction. Ça veut dire tout ce qu'on peut construire, que ce soit une autoroute, que ce soit une station de traitement d'eau, que ce soit un pont, que ce soit un port. Toutes ces constructions-là sont, bien sûr, assujetties à un permis de construire.
Voilà, toute construction, sans distinction.
Toute construction.
Voilà.
Le pylône de transport d'énergie électrique, les antennes de télécommunications, toutes constructions, je dis pas tout bâtiment, le bâtiment est inclus dans la construction.
Dans la construction.
Tout cela est soumis à un permis de construire.
Alors, quelles sont les conditions ou la procédure pour obtenir ce permis de construire?
Vous allez me permettre, M. Jody, de parcourir ces procédures d'une manière internationale, au lieu de parler seulement de notre pays.
Voilà.
Cela pourra nous aider à comprendre si, en réalité, nous le faisons de la bonne manière ou pas. Ça veut dire quoi?
La procédure doit être standard partout, j'imagine.
Évidemment, parce que vous avez tantôt parlé de l'autorisation de bâtir. C'est comme ça, nous, on l'appelait avant. Mais pourquoi on est parti de l'autorisation de bâtir vers le permis de construire? On est parti vers le permis de construire parce que notre pays a adhéré à l'OADA. Et à l'OADA, tous les pays membres de l'OADA, ce document s'appelle permis de construire. Nous l'avons donc uniformisé. Nous appartenons à des organisations régionales. Nous appartenons à des organisations internationales. Nous sommes obligés de mettre nos procédures par rapport aux standards qui sont reconnus dans ces organisations aussi bien internationales que régionales. D'abord, la première question que je me pose, pourquoi un permis de construire? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi on doit avoir un permis de construire? Pourquoi l'administration a instauré le permis de construire? C'est justement parce que quand vous voulez entreprendre une construction qui peut demain ou après-demain nuire d'une manière ou d'une autre à l'environnement ou mettre la vie des gens en danger, l'autorité administrative doit s'assurer que le projet que l'on va pouvoir construire. Ce projet-là s'adapte très bien avec les dispositions légales et réglementaires à la matière. C'est ça le but, c'est-à-dire on doit vérifier la conformité de la demande avec les différents règlements. Mais c'est aujourd'hui, laisse-moi vous dire, que le règlement font défaut chez nous. Le code d'urbanisme est vieux de 1957. Je sais qu'au niveau du ministère de l'urbanisme et habitat, on est en train de s'atteler pour adopter un nouveau code, pas seulement de l'urbanisme, mais aussi de la construction, parce que nous n'avons pas un code de construction, nous n'avons pas un code du bâtiment, nous avons des plans d'urbanisme qui sont vieux. Donc vous comprenez que lorsque on amène une demande pour le permis de construire, on doit pouvoir évaluer la conformité de ce qu'on veut faire par rapport aux différents règlements qui malheureusement font défaut chez nous. C'est ça le premier problème que nous avons. D'ailleurs, je félicite l'équipe, la commission technique d'analyse des dossiers, qui est une équipe que je connais très bien, une équipe costaud du ministère de l'Urbanisme et Habitat, dont les gens sont en train de se démener à leur manière pour que les dossiers soient très bien analysés.
Alors, quelles sont d'abord les exigences? Celui qui veut entreprendre une construction, qu'est-ce qu'il doit apporter comme pièce à soumettre?
Je suis en train d'en arriver, monsieur. Je vous dis, laisse-moi rappeler d'abord le préalable. C'est-à-dire que si on veut faire un contrôle de conformité, on doit avoir les référentiels qui définissent la conformité. Supposons que vous voulez un produit, je prends un cas le plus connu pour l'Office congolais de contrôle, qui est un spécialiste en matière de contrôle de conformité. C'est-à-dire, si je veux importer un produit pour l'amener au Congo, un produit qui s'appelle le riz, par exemple, il y a de référentiels de conformité du riz qui doivent être consommés au Congo. Alors, dès que je démarque avec mon riz à la frontière, qu'est-ce que l'OCC fait? L'OCC évalue la conformité de ce riz-là par rapport aux exigences. Ça veut dire que l'évaluation de la conformité ne se réfère, n'a pour appui que le référentiel de conformité qu'on appelle les exigences normatives. Mais nous avons un problème. D'abord, je suis en train de souligner là-dedans, parce que c'est là où il y a le problème. Nous avons un problème de documents d'urbanisme, nous avons un problème de codes de construction, nous avons un problème de codes d'urbanisme, nous avons tout un tas de problèmes. Un secteur qui a une carence juridique énorme, qui n'est régi que par des décrets.
D'accord, vous étiez en train de parler des normes au niveau international. Comment ça se présente?
Alors, revenons sur la conformité. Qu'est-ce qu'on doit faire sur la conformité? C'est-à-dire, la commission en charge de l'évaluation de la conformité, qui traite le dossier sur le permis de construire, devait d'abord avoir l'essentiel de tout le document urbanistique. Ça veut dire le plan directeur d'urbanisme, pour définir quelles sont les zones non édificandes et les zones édificandes. Il doit disposer d'un code de construction. Il doit disposer de différents autres codes, un code du bâtiment, par exemple pour la construction du bâtiment, un code de construction pour toutes les constructions de manière générale, de façon à ce que, quand les dossiers parviennent à la commission fait l'évaluation de la conformité pour dire, OK, on peut accorder le permis de construire à ce projet et on peut refuser le permis à cet autre projet. Alors, hormis le fait que on peut accorder un permis de construire à ce projet et refuse à cet autre. Il y a d'autres procédures. Un permis de construire peut être accordé à un projet, mais le riverain ou le voisin de ce projet-là, ils peuvent faire un appel en annulation du permis.
Est-ce que, par exemple, on peut construire une maison en étage à trois niveaux à côté d'une maison basse?
C'est ce que le document d'urbanisme devait définir à l'avance. Le document d'urbanisme devait définir que ça, c'est une zone industrielle, comme l'UMT industriel. Malheureusement, à l'UMT industriel, nous avons des universités maintenant. Ça veut dire que dans cette zone industrielle-là, on ne pouvait pas accepter d'autres types de constructions, comme des constructions résidentielles ou les infrastructures éducatives. Au niveau déjà du document d'urbanisme, ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de débat. Ça veut dire...
Ou construire une usine à côté d'une école.
Absolument. C'est ce que je suis en train de beaucoup m'atteler sur les référentiels ou les documents sur lesquels on va se baser pour accepter, octroyer un permis ou refuser le permis. C'est ça le socle fait de cette activité de permis de construire. Alors, Quand vous avez un secteur qui a un grand vide juridique, qui ne régit que par les arrêtés, je suis tout à fait conscient que les différents ministres qui se sont succédés et ont constaté ce vide-là, ils ont élaboré des arrêtés. Mais des arrêtés sont les tests d'application, généralement, d'une loi. Donc, il va falloir qu'on revienne aux fondamentaux.
Donc, vous voulez dire qu'il n'y a aucune réglementation dans ces secteurs-là?
Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas une. J'ai dit qu'il y avait un code d'urbanisme qui était vieux. Parce qu'il date de 1957. Il est totalement dépassé.
Il doit être mis à jour.
Il doit être mis à jour. Il y a même un projet d'élaboration des nouveaux codes au niveau du ministère dont nous avons reçu copie pour amendements et commentaires. Mais ça prendra encore combien de temps? Ça prendra peut-être une année, deux ans.
Alors maintenant, tous les permis qu'on délivre ici, c'est délivré sur base de quels...
Sur base de ces vieux documents.
De ces vieux documents dépassés.
Sur base de quelques arrêtés que quelques ministres ont dû signer. C'est sur base de ça.
C'est pour cela qu'on voit des types de constructions qui ne répondent pas aux normes poussées un peu partout à Kinshasa.
Ça veut dire que si vous dites ne pas répondre aux normes, vous devez alors vous assurer que ces normes-là existent. Alors, ce qui est étonnant, M. Jedi, c'est que nous voyageons partout dans le monde et nous apprécions comment les zones urbaines sont construites. Vous avez une différenciation nette entre les zonings en matière d'urbanisme. Vous reconnaissez que ça, c'est une zone industrielle et ça, c'est une zone résidentielle. Ça, c'est une zone administrative. Mais chez nous, la ville de Kinshasa a perdu complètement cette zonification-là. Ce qui fait qu'au niveau de la ville de Kinshasa, même dans des zones agricoles, on a vu des constructions. Je me rappelle le long de la...
Même dans les cimetières, il y a des constructions.
Non, le long de la rivière Ngili, il y avait les programmes, c'était, je crois, les champs de maïs, de riz, c'était les rizicoles de programme national riz, oui, qui aujourd'hui ont été envahis par des constructions. Donc,
et tous ces gens-là ont obtenu des permis de construire.
Je suppose qu'ils en ont eu. Et s'ils n'en ont pas eu, je me pose la question pourquoi on les a laissés construire. Parce que la loi stipule qu'on ne peut pas construire sans un permis. Comment un monsieur qui n'a pas un permis a pu construire sous la barbe de l'autorité administrative?
Ça, c'est... Et après, quand il y aura des inondations, il y a les gens pleurent souvent dans ces zones-là.
Alors ça, c'est encore inadmissible parce que nous savons que l'autorité administrative a la charge de protéger la population et de protéger le bien de la population. Donc, il faudrait que la législation soit actualisée. Mais il va falloir qu'il y ait des mesures d'application pour que, pendant qu'on est en train de délivrer des permis de construire, que ce soit sur base des référentiels qui sont connus, aussi bien par les demandeurs que par des commissions chargées de les octroyer. Voilà.
Mais il semble qu'aujourd'hui, ces documents-là, permis de construire, ça c'est monnaie, ça s'octroie n'importe comment. Même, vous pouvez vous retrouver dans un bar et puis autour d'un verre et on vous délivre les documents.
Ah non, moi je ne partage pas cet avis. Moi je sais qu'il y a un dossier qui doit être constitué à cet effet, le dossier qui comprend tout le plan de projet à édifier et qui comprend aussi tout ce dont on a besoin comme le nombre de calculs. Quand bien même, jusqu'au moment où nous parlons, dans la constitution des dossiers, je n'ai vu nulle part les exigences pour anti-incendie. Je n'ai pas encore vu ça. Ce qui devait normalement être. Parce que quand vous érigez une construction, il aurait fallu, par exemple en France, vous ne pouvez vraiment pas obtenir un permis de construire sans l'avis de sapeurs-pompiers. Parce que demain après-demain, il peut y avoir une catastrophe. Il peut y avoir l'incendie qui est déclaré dans un stade, dans une maison, dans un immeuble d'habitation. Donc, au niveau de cette commission-là, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui manquent. Entre autres, l'avis des autorités en charge des incendies. Ça devait figurer dans les exigences. Malheureusement, à ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, ça ne figure pas.
On voit des immeubles ici à Kinshasa pousser et ces immeubles n'ont pas de parking. Et les gens mettent les véhicules dans la rue, ça dérange même la circulation.
Ça, c'est un problème de fond. Pas seulement des immeubles, mais même des hôtels. Comment vous pouvez vous imaginer, M. Jody, qu'un hôtel construit en plein centre-ville de la Gombe, avec des salles de conférence de 500 personnes, 600 personnes, un hôtel qui peut contenir qui peut héberger entre 200 et 250 personnes, et que vous n'ayez qu'un parking pour 20 ou 10 voitures? Ça aussi, c'est un problème.
C'est là où c'est inadmissible. Donc, est-ce que tout ça, ceux qui ont délivré le permis de construire n'ont pas veillé à cela? N'ont pas vu tout cela?
C'est là où j'ai dit, ces permis-là devaient être délivrés par rapport au référentiel. S'il y avait un code du bâtiment qui stipule clairement que pour un immeuble, un hôtel, par exemple, 3 étoiles, ayant une capacité de d'hébergement de 250 personnes, cet hôtel-là, on suppose qu'avec 250 personnes hébergées, on ne peut pas. On ne peut pas avoir 10 parkings ou 15 parkings. Oui, mais malheureusement, il y a des hôtels qui ont été construits dans cette ville. Et il faut voir la souffrance des riverains de ces hôtels-là. Nous sommes à la Gombe. Promenez-vous quand il y a une conférence dans ces hôtels-là et que les salles de conférence sont bondées du monde parce qu'il n'y a pas de parking. Ce sont les riverains qui en souffrent. Quelqu'un qui rentre chez lui à 13h, il ne sait pas accéder dans sa parcelle parce que tout simplement...
Les gens ont parqué partout, sur la route.
Ils ont parqué en face de, à l'entrée de sa parcelle. Dans sa parcelle. Donc, si on aurait été... Si on met véritablement de l'ordre et du sérieux dans cette affaire, je vous assure, il y a des immeubles qui ne seront pas fonctionnés. Parce que ces immeubles-là ont peut-être obtenu un permis de construire, je dis peut-être, parce qu'ils ne connaissent pas au cas par cas, mais néanmoins, ce qui est encore étonnant, c'est que ces immeubles ont obtenu des autorisations d'exploitation.
Bien, je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Michel, ingénieur Michel Oyumbu. Quelle est la procédure d'octroi de permis de construire? Nous avons Aline Germain Akili de Boutembo, David nous appelle de Kalemi et Jérémy de Lubumbashi.
Parité, autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Quelle est la procédure d'octroi du permis de construire? Germain Akili, vous êtes à Boutembo, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation, je voulais juste d'abord féliciter l'invité, parce que c'est un sujet vraiment édifiant. Vu ce que nous sommes en train de vivre partout dans le pays, les éboulements, les constructions anarchiques, mais malheureusement, je suis désolé de vous raconter que ici à l'Est, surtout à Boutembo, Bukavu, il y a toujours des destructions, à cause des éboulements, les restes de l'urbanisme. Et les services délivrent les documents n'importe comment. Vous arrivez au bureau sans descente, on délivre les documents, même vous payez, et là, vous avez déjà les documents. Il faut des descentes sur terrain pour permettre à tout un chacun de construire en respectant les normes. Pas de parking par-ci, par-là, et là, il y a un désordre total. Monsieur l'invité allait nous fixer si réellement. Tout ce qu'il est en train de nous raconter là sont des normes nationales et internationales, oui, mais qui ne sont pas respectées. Ces normes-là ne sont pas respectées par la population et surtout par les services capables de livrer les permis de construire les autorisations-là. Est-ce que dans notre pays, il n'y a pas un autre service à part l'urbanisme qui peut faire le suivi et voir si tout ce qui est inscrit dans les documents, dans les dossiers du demandeur, est-ce que tout cela est respecté?
Bien, merci Germain Akili de Boutembo. David, vous êtes à Kalemi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? David? Bien, on va passer à Jérémy de Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour également à notre invité. Je pense que le sujet... Il est très pertinent parce que dans la mesure où il se passe bien de désordre dans ce secteur, et je pense que, en tout cas, vous aviez raison, en tout cas, d'aligner ce sujet au jour d'aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, j'ai assisté à une situation vraiment très alarmante et qui ne semble pas vraiment faire du bien pour tout un peuple. Je pense que... J'avais aussi demandé autrefois l'autorisation de construire. D'abord, j'étais dans une commune où j'ai demandé la même permission. Mais je suis en train de voir que quand vous demandez une autorisation de bâtir, vous allez voir qu'il y a toute une chaîne, un chapelet de personnes là. Alors, il y a un groupe qui était venu récemment ici, quand j'ai consulté dans une autre commune, je leur ai demandé, est-ce que vous avez l'ordre de mission quand vous venez? Parce que moi, je suis allé là-bas déclarer que non, je devais procéder à la construction d'une maison.
Oui.
Mais il se fait qu'ils m'ont dit non, ils passeront eux-mêmes sur le terrain. Mais je me rends compte que quand ils passent sur le terrain, ils n'ont pas l'ordre de mission. Alors, ça, c'est un fait. Et de deux, lorsque on a conclu, il fallait payer les frais, tout ça, on a payé, mais moi, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez m'octroyer une pièce dûment signée par les chefs qui vous envoient ou qui vous mandatent? Et jusque-là, on n'a fait qu'une simple décharge, et je me dis, mais dans notre pays, il faut vraiment qu'on mette un peu de l'ordre dans ce secteur.
Et vous avez, monsieur Jérémy,
de voir que tout cet argent-là échappe au trésor de l'État.
Jérémy,
parce que c'est l'argent qui doit entrer. Oui, alors, monsieur Jérémy.
Oui, vous avez payé combien pour obtenir l'autorisation, là?
Oui, en tout cas, moi, je me suis dit, ils m'ont rançonné parce que je ne pouvais pas faire autrement. Ils ont fait les mesures, ils ont fait tout ce qu'il fallait, là.
Oui.
Ils m'ont demandé à peu près, ils m'ont demandé en dollars. Je leur ai dit, mais l'État congolais, on ne paye pas les fonctionnaires de l'État en dollars. Mais quand vous fixez les prêts comme ça en dollars, 200 dollars, en tout cas, mes amis, je pense que je dois moi-même aller voir votre chef et vous dire quoi. Alors, ils m'ont dit, non, il fallait qu'on arrange un peu à la merde. C'est là que j'ai trouvé que non, ils n'étaient pas sérieux. Alors, il faut que l'État congolais prenne à bras le corps cette situation. Pour, et vraiment, on ne doit pas assister à l'évasion fiscale. Tout ce qui doit profiter au
oui, Jérémy, et votre maison
dans les caisses de l'État et non dans les poches des gens.
Et votre...
ça, c'est un fait. Monsieur Jossi, il y a aussi un autre problème. Les écoles qui nous entourent. Il y a des écoles qui sont... Depuis qu'on a cru que c'est dans les écoles qu'il y a de l'argent, alors il faut toujours élever en hauteur sans toutefois tenir compte des normes d'urbanisme. Tout ça, ce sont des problèmes. Et quand il y a écoulement, ce sont les plaisirs des citoyens qui en pâtissent. Alors, il faut que l'État congolais mette vraiment à assainir un peu cet espace-là pour qu'il y ait de l'ordre. On ne doit pas construire une grande école en hauteur sans tenir compte de quelle matière est-ce que la fondation a été bien posée. Et est-ce qu'on ne voit pas l'entourage des gens? Est-ce qu'il faut toujours construire en hauteur là où il ne faut pas le faire? Ça, c'est un fait. Il y a même en pleine ville de Lubumbashi une maison qui a été élevée en hauteur, mais dont le soubassement n'a pas été bien fait, et on est en train de voir des fissures. Tout ça, c'est un danger qui guette la population.
Merci, Jérémy.
Et on n'en tient pas compte.
D'accord, merci beaucoup. On va donner la parole à Albert Mwananga de Kananga. Bonjour, Albert. Albert Mwananga, bonjour.
Merci, bonjour, je vous écoute.
Quelle est votre question par rapport à la procédure d'octroi du permis de construire?
Oui, merci beaucoup, monsieur. Je dis vraiment, moi j'interviens seulement parce qu'il y a un aspect ici, dans notre province, particulièrement à Kananga, où les gens qui habitent, qui veulent construire tout au long des chemins de fer au camp SNCC. Vous voyez que cet endroit ici, vous passez, je pense qu'on a affiché là-bas l'autorisation de bâtir, oui. Autorisation de loture, tout ça, on a affiché. Donc les gens sont en possession de leur document pour bâtir. Mais d'un coup, on assiste aussi à des propos venant, je ne sais pas, dire que voilà, il ne faut pas construire, il faut sursoir ça, il faut attendre, et il ne faut pas construire. Bon, est-ce que moi, personnellement, je me suis toujours demandé, mais ces gens-là trouvent l'autorisation de bâtir, comment et pourquoi, ou comment on arrive aussi à... C'est la même autorité qui a livré le document et qui vient aussi interdire les gens de ne pas bâtir ou comment. Je me suis toujours posé ce genre de questions, mais sans réponse là, la question revient à notre invité. Si je peux nous éclairer là-dessus pour que nous soyons fixés à ce sujet.
Bien, merci.
Ma préoccupation, merci.
Merci. Gaston Ngandou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jolie.
On vous écoute.
Donc, je dis, je n'ai jamais compris sur un terrain qui n'a pas été loti par l'État. Hein,
oui.
Que les chefs coutumiers se sont permis, avec l'ignorance de la population, lotir un terrain et les services habilités à octroyer l'autorisation, livrent cette autorisation. Est-ce que c'est légal, cette manière de procéder? Un terrain qui n'a jamais été loti, mais on se permet de livrer. Ces autorisations-là. Et deuxièmement, il arrive que les gens ont acquis de manière malhonnête les biens se permettent de construire par-ci, par-là, et il y a des autorisations qui sont octroyées. Est-ce que ces services-là sont d'habilité au préalable aussi de demander la provenance des fonds qu'on veut investir ou qu'on veut construire dans les cas d'espèce? Et puis, pour finir, j'aimerais savoir, dans les cas où l'ingénieur ou ça, l'architecte n'est pas inscrit dans l'ordre, parce qu'il y a un ordre là qui est créé, est-ce que les services français octroyaient aussi l'autorisation de construire ou ça, il est conditionné d'être inscrit avant d'octroyer? Qui est censé demander cette autorisation? Voilà mes préoccupations.
Bien, merci. Jean-Claude, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Ah oui, j'ai des petites préoccupations concernant les sujets du jour. C'est un sujet très important et très intéressant, parce que ce que nous sommes en train de voir ici dans la ville de Bounia, concernant l'octroi et la destruction méchante des maisons construites anarchiquement par les populations appelées pauvres. Alors, à un moment donné, vous allez voir les gens de la commune descendent sur le terrain pour la destruction de certaines maisons construites au long de la rivière. Alors, à un moment donné encore, vous allez constater, il y a d'autres gens en disant qu'ils ont les moyens, qui viennent encore reconstruire dans cet endroit. Mmh. Et les gens à qui on avait chassé de ces lieux, au lieu que les temps puissent se charger à leur donner quelque chose pour aller acheter les terrains ailleurs, on les laisse à leur juste sort. Alors, est-ce qu'il y a une loi destinée soit aux pauvres et une loi destinée pour les riches? Parce que vraiment ici à Retouri, c'est vraiment exagéré. Nous, oui. Nous les pauvres, je peux dire ça, nous sommes menacés concernant ces cas. Et aussi, vous allez voir parfois, quand quelqu'un construit une maison sur le long d'une route, à un moment donné, vous allez constater, on vient avec leur système de... Comment appeler les gens de fonds sociaux là, ils viennent, disons, vraiment désormais, d'ici jusque-là, soit 4 ou 5 mètres, il faut laisser cet endroit, ça c'est destiné pour l'espace, pour pas de chaussées, tout consort.
Et on vient démolir.
Oui.
Et on vient démolir la construction. Merci d'avoir appelé Jean-Claude de Bounia. Ingénieur Michel Oyumbo, vous avez la parole.
Merci beaucoup, M. Jodier. Quand nous essayons de parcourir les différentes interventions, cela montre suffisamment comment la thématique du jour est vraiment intéressante pour les pays, pour les auditeurs de Radio Capi. J'ai essayé de prendre note de certaines préoccupations de nos amis qui ont appelé. Mm-hmm. Notre ami de Bukavu, Germain Akili, il a parlé des éboulements qu'on observe à Bukavu.
À Butembo.
À Butembo, sur des constructions.
Il dit qu'il faut même pas des descentes. On demande seulement de payer. Vous payez l'argent et puis bon, voilà, on vous octroie les documents.
Normalement, dans la procédure, il est inscrit de la descente sur le terrain. Donc, si à Butembo on le fait pas, c'est déjà contraire à la procédure qui doit être respectée. Donc, la descente sur le terrain est inscrite là-dedans. Mais si je peux dire quelque chose par rapport à la descente sur le terrain, c'est que cette descente sur le terrain n'est pas bien encadrée. Et ce qui permet à certains techniciens qui se descendent sur le terrain de demander...
Ils descendent sur le terrain pour faire quoi?
Justement, ils descendent sur le terrain pour voir, pour vérifier si le plan qu'on leur avait fourni est par rapport au terrain qui est... Si, vérifier, par exemple, tous les éléments qu'il y a sur le plan, si c'est conforme au terrain et sur lequel on va ériger cette construction-là. Mais j'étais en train de dire que cette descente sur le terrain doit être encadrée. Généralement, cette descente sur le terrain, c'est sur les dos des demandeurs des permis de construire, ce qui est anormal. Mmh. Donc, la taxe devait être unique pour que la taxe prenne en compte la descente sur le terrain, pour que la taxe prenne aussi en compte ce qu'on appelle le frais technique et la taxe même du bâtisse. Donc, tous ces éléments-là doivent être mis ensemble et cette descente sur le terrain ne doit pas être une formalité. Cette descente sur le terrain doit être remplie des exigences pour que ceux qui descendent sur le terrain fassent un PV correctement pour ne pas induire la commission en charge des analyses en erreur. C'est une étape très, très importante, la descente sur le terrain. Donc, elle doit être encadrée. Elle ne doit pas être un sujet pour ceux qui descendent sur le terrain de demander l'argent aux demandeurs des permis de construire, ce qui est déjà faux. Et cette descente sur le terrain doit se faire en bonne et due forme, donner des avis corrects, de manière à ce qu'un permis ne soit pas octroyé sur un site à problème. Et ça, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et il a évoqué un autre aspect qui concerne ce que nous emploie en agrotechnique, l'inspection des travaux. C'est-à-dire, après avoir fait une descente sur le terrain, après avoir analysé les dossiers et accordé un permis, il faut qu'il y ait une inspection pendant toute la durée d'exécution des travaux. C'est ce qui ne se fait plus chez nous. Qu'est-ce qui prouve que les notes de calcul qui ont été transmises dans les dossiers, que pendant l'exécution, on est en train de le respecter. Alors, qu'est-ce qui va y arriver après? Parce qu'à la fin des travaux, il est stipulé qu'on doit accorder ce qu'on appelle le certificat de conformité. La conformité, c'est justement pour dire, nous avons réceptionné le dossier, nous l'avons analysé, nous t'avons octroyé un permis, cette construction, nous l'avons inspectée pendant toute sa durée, et à la fin, nous constatons que vous avez respecté tout ce qui est dans le dossier, nous vous accordons le certificat de conformité. Mais à l'absence d'une inspection des travaux, comment pouvez-vous accorder un certificat de conformité? Là, ça pose un problème. Malheureusement, c'est ce qui se passe.
Et la corruption s'est invitée dedans. Certainement. Les gens, le monnayage, les gens se font corrompre comme pas possible.
Non.
Ouais. Vous avez suivi Jérémy de Lubumbashi parler de ça, des agents qui sont descendus sans ordre d'émission,
oui.
Et puis on leur demande de payer 200 dollars.
Oui, malheureusement, ces frais-là sont payés entre les mains des individus. Or, le permis de construire doit se payer à la banque. Et là aussi, il y a un problème sur le permis de construire qu'on doit payer à la banque. Je n'ai jamais compris.
D'abord, c'est combien le montant à payer pour un permis de construire?
Bon, ça dépend. Je crois que si ma mémoire est bonne, le taux à payer, c'est au mètre carré bâti, c'est 1,8 $ au mètre carré. Et on a ajouté à cela ce qu'on appelle le coefficient de pondération pour dire que la ville, par exemple, pour Kinshasa, la Gombe, est à 1 comme coefficient de pondération, c'était vous payez 1,8. Et que quand vous vous éloignez de la ville par rapport au quartier où vous vous trouvez, donc il y a une catégorisation qui a été faite et vous partez de 1,8 $ jusqu'à presque la moitié de 1,8 $ au mètre carré. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le permis de démolition. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que malheureusement, j'ai pas l'arrêté avec moi, mais la démolition maintenant, c'est calculé à 1,5 $ le mètre carré. Moi, je peux pas comprendre lors de la construction, qu'on paye 1,8 $ au mètre carré et qu'on démolisse une maison, qu'on soit en train de payer 1,5 $ au mètre carré. Donc, il y a quand même assez de choses qu'on doit régler par rapport à la taxe elle-même, par rapport à la descente sur le terrain, par rapport à l'évaluation de la conformité, par rapport à l'inspection des travaux et par rapport à la délivrance de ce qu'on appelle le certificat de... les certificats qu'on délivre à la fin des travaux, les certificats de conformité. Donc, il y a quand même beaucoup. Depuis 2014-2015, à la suite de certaines catastrophes qui ont eu lieu dans la ville de Kinshasa, il y a eu quand même beaucoup de volonté de faire avancer les choses, mais ces efforts-là ne sont pas encore suffisants par rapport à l'immensité de problèmes que nous avons dans les secteurs.
Bien. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé des écoles. Quelqu'un s'est rendu compte que, voilà, les écoles aujourd'hui font rentrer beaucoup d'argent. Alors, c'était des constructions basses. Il s'est dit, non, je dois aller en hauteur. Ça va me rapporter beaucoup d'argent. Alors que c'est la fondation de ces bâtiments ne peut pas supporter un autre bâtiment au-dessus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça?
Non, mais il n'y a pas que ça comme souci. Je vais bien, ça c'est une préoccupation, c'est vrai. Mais il y a une autre préoccupation, c'est que ces écoles-là n'ont même pas de parking. Regardez l'avenue comme 24 novembre. Il y a une nouvelle école qui vient d'être érigée, qui est partie en hauteur, je ne sais pas combien de niveaux.
Mais il n'y a pas de parking.
Il n'y a pas du tout de parking. Et tout en sachant que l'avenue 24 novembre, c'est déjà une avenue dont le taux de trafic était très élevé, cette école a pu quand même obtenir un permis de construire. Lui, il a construit. Mais passer à la sortie de cours des enfants sur 24 novembre à cet endroit-là, je vous assure que ça ne va pas. Comment, je ne peux pas comprendre comment une école qui reçoit entre 500 à 1000 élèves et une école qui est censé avoir des parents qui viennent de poser les enfants à l'école le matin, qui paie, quand vous avez une école dans cette ville avec 500 000 élèves, surtout une école qui est implantée vers le centre-ville, je vous assure que vous avez plus ou moins 300, 400 véhicules qui viennent de poser les enfants chaque jour à l'école. Et que cette école-là a été, je suppose que le promoteur a obtenu un permis de construire, mais néanmoins, je constate qu'il n'y a pas de parking du tout. Pas seulement les parkings, même la cour pour les enfants, ça n'existe même pas. Comment on peut en arriver là? C'est là où je reviens à ce que je disais, la conformité de plan de cette école devait être vérifiée par rapport au référentiel qu'on appelle les normes sur la construction des écoles, qui malheureusement font défaut. C'est par rapport à ça qu'on peut se dire. Mais si vous voulez construire une école, vous avez une capacité de 500 élèves. Alors, on fait la projection. Vous pouvez drainer dans cette école entre 200 à 300 parents qui ont des véhicules pour déposer les enfants. Mais à cet endroit-là, monsieur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et on ne peut pas délivrer à cet endroit-là un permis de construire. Je suppose qu'il a eu un permis de construire. Je ne dis pas qu'il en a eu parce que je n'ai pas le preuve. Mais je constate qu'il est là. Donc,
à la fin, il doit avoir obtenu aussi les certificats de conformité.
Bon, je suppose qu'il a obtenu. Oui. S'il a eu un permis, qu'il a obtenu les certificats de conformité. Alors, qu'est-ce qui est conforme par rapport à ces cas précieux? Il n'y a rien qui est conforme. Supposons que la fondation a été très bien construite, qu'il n'y a aucun danger pour les voisins. Mais il y a une gêne terrible pendant que l'école doit drainer entre 200, 300, 400 véhicules chaque matin et chaque midi. Et peut-être s'ils ont des classes de l'après-midi, aussi l'après-midi, et causer beaucoup, beaucoup de perturbations sur le trafic routier parce que l'école est située le long d'une grande artère de la capitale avec un afflux de véhicules. Et c'est vraiment devenu beaucoup de peine pour les usagers de cette route-là, à cause de cette école qui s'est installée à côté-là, qui a peut-être obtenu un permis de construire.
Voilà. Albert nous a parlé des gens qui ont obtenu des terrains le long du rail SNCC là-bas à Kananga. Et puis, le long du chemin de fer, et ces gens ont des permis de construire et après, on leur dit, bon, vous ne pouvez pas construire ici, alors qu'on leur a délivré les documents. Ça veut dire qu'il y a la corruption, ça ne marche pas, il y a un laisser-aller terrible dans ces secteurs-là.
Alors, je ne crois pas que le long des chemins de fer, que les gens puissent obtenir le permis de construire. Peut-être qu'ils ont obtenu les terrains. Ils ont peut-être obtenu des terrains qu'ils ont eu. Nous savons comment les gens obtiennent des terrains dans ce pays. Mais je ne crois pas que une administration sérieuse puisse délivrer des permis de construire le long d'un chemin de fer. Parce qu'il y a quand même les minima qu'on doit observer avant de délivrer le permis de construire le long des chemins de fer. Ça met la vie des occupants en danger. Mais c'est là où je vais évoquer la collaboration qui doit y avoir entre les services, et entre l'administration foncière et l'administration en charge de l'urbanisme et habitat. Normalement, sous autres cieux, ces deux administrations doivent travailler ensemble. Ça ne pouvait pas faire deux ministères. Parce que les deux sont pratiquement dans un même secteur. Les deux devaient travailler ensemble pour éviter à ce que, au niveau des affaires foncières, qu'un lotissement soit accepté et qu'au niveau de l'administration en charge de l'urbanisme, que le permis soit refusé à ces gens-là. Donc ça serait une contradiction de toute façon. Donc ces services, le service des affaires foncières, les services de l'urbanisme et habitat, ce sont des services qui devaient travailler normalement ensemble pour éviter ce genre de confusion.
Bien, Gaston de Kinshasa dit quelqu'un a un terrain non loti. Le gouvernement n'a jamais loti, fait un lotissement là-bas, mais quelqu'un a acheté son terrain auprès des chefs coutumiers, mais après, ce sont les services de l'État qui viennent délivrer le permis de construire. Alors, il n'arrive pas à comprendre cela.
Ça, c'est encore un autre débat sur la gestion du foncier ou la gouvernance foncière. C'est un débat très, très délicat à partir du moment où les chefs coutumiers, pour eux, les terres sont des terres des ancêtres. Alors que pour l'État congolais, les terres appartiennent à l'État. Donc, moi, je pense qu'on devait revenir à la bonne gouvernance foncière comme ce qu'a existé à l'époque coloniale. Si on reconnaît aux chefs coutumiers le droit des terres, mais au moins, la spoliation de ces terres ou la vente de ces terres ne pouvait se faire exclusivement à l'État congolais. Je pense que on pourra peut-être visiter la loi foncière d'un moment à l'autre. Mmh. C'est, pour moi, c'est un amendement qu'on doit tenir compte. Donc, on doit absolument interdire aux chefs coutumiers. Si l'État concède le fait que le terre appartienne aux chefs coutumiers, mais l'État devait interdire aux chefs coutumiers de faire de lotissement. S'ils veulent lotir un terrain qui leur appartient, ils devaient revenir vers l'État congolais pour que l'État soit le seul acheteur de ces terrains coutumiers. Si on accepte qu'il y a des domaines coutumiers, on doit réglementer ces domaines coutumiers. Sinon, ce vide-là fait que les chefs coutumiers pourraient, le terrain les appartient. Et je me rappelle, il y a un bout de temps, je crois il y a une bonne dizaine d'années passées, à l'époque du président Mobutu, oui, monsieur s'est emprunté un matin pour dire que le terrain de la RTNC était à lui. Ah, c'était une bonne blague. On a dit, tiens, mais toi, tu es qui? Il dit, non, moi, je m'appelle tel monsieur. Mon arrière-arrière-grand-père s'appelle Lingwala. Tout cet terrain ici nous a
parti.
Alors, il disait le palais du peuple.
Et qu'est-ce qu'il voulait?
Il disait le palais du peuple.
A été construit sur l'air.
Sur l'air terrain. Le palais du peuple, la RTNC, même le stade des martyrs.
Voilà.
C'était une bonne blague. Donc, il faut réglementer le domaine coutumier ou le terrain coutumier.
Mais quand les coutumiers accordent des terrains et puis les services de l'État octroient les permis de construire après, il y a un problème.
Non, mais je ne crois pas que le coutumier ait le pouvoir de lotissement. Si le coutumier le font, je ne dirais pas dans tout le cas, ils sont censés le faire avec les services
Alors,
de
l'État. Alors, vous reconnaissez, Michel Oyumbu, qu'il y a un problème en ce qui concerne l'octroi des permis de construire aujourd'hui.
Un problème très délicat.
Très délicat.
Un
du problème fait qu'il n'y a délicat. Même pas de réglementation.
Un problème très délicat où il y a d'un côté un grand vide juridique ou une insuffisance de dispositions légales et réglementaires et un autre problème, c'est au niveau de la coordination des services de l'État, d'où la compétence, deux fois. On ne sait pas qui est compétence.
Est-ce que ceux qui délivrent ces permis sont des ingénieurs bien formés ou il y a un peu du méli-mélo?
Non, mais je ne crois pas que... Il y a deux problèmes à ce niveau, je dis. Il y a deux endroits où les permis sont délivrés. Mais il y a d'autres endroits où les permis n'existent pas. Mais ceux qui font partie de la commission pour évaluer les dossiers et cette commission technique d'évaluation, je vous assure que ce sont des gens qui sont bien formés. Mais ils vont travailler sur base de quoi? Imaginez-vous que vous ayez deux équipes de football, que vous mettez comme arbitre un arbitre bien formé. Mais si vous ne lui donnez pas la réglementation, sur base de quoi il va arbitrer? C'est peut-être à ce niveau qu'il y a une difficulté. L'arbitre peut être bien formé. Parce que nos amis qui sont membres de la commission d'évaluation, ils évaluent les dossiers par rapport à certaines dispositions de la loi qu'ils ont. Mais si dans
notamment
la disposition
les arrêtés.
De la loi...
Vous avez dit qu'il n'y a que des arrêtés.
Ils travaillent qu'avec des arrêtés. Il y a des arrêtés ministériels comme les arrêtés interministériels, mais il y a aussi un code d'urbanisme qui est vieux. Et il n'y a pas un code de construction. Non, il n'y a pas un code du bâtiment. Vous sentez que nous avons, pendant plus de 50 ans bientôt, nous avons évolué dans un cadre dont l'arsenal juridique fait défaut. Ce qui a favorisé, il y a d'un côté l'arsenal juridique qui fait défaut, et de l'autre côté les mécanismes de contrôle qui ne s'appliquent pas de la bonne manière. Alors, ça laisse lieu à toute la confusion et à toutes les difficultés.
À la corruption et à tout ce qu'on déplore aujourd'hui. Voilà. Benjamin Takananga Malonga nous appelle de Bandundouville. Benjamin, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question, Benjamin?
Oui, monsieur Jody, si j'ai appelé, c'est parce que j'ai été victime d'un certain acte que je dirais, bon, excusez-moi les termes, escroquerie. C'était en 2016, parce que moi, je suis en Kélékélé. Je me suis présenté à la commune de Katoka dans les bureaux de l'urbanisme et l'habitat pour me procurer l'autorisation de bâtir. Et là, ils m'ont taxé cher. Bon, même nous sommes parvenus à nous concerter. J'ai donné de l'argent et ces gens-là m'ont fait une note de perception que j'ai continué à garder jusqu'à ce jour. Malheureusement, c'était à l'époque du bourgmestre Ilunga Tcha Omanachit. Ces derniers n'étaient pas même informés de la perception de cet argent. Et je suis resté dans l'attente longtemps, peut-être, pour qu'on puisse me livrer les documents. Jusqu'alors, il n'y avait pas de documents. Et je suis allé me présenter, c'était à l'hôtel de ville, à la direction provinciale. Et là, j'ai payé de nouveau l'argent pour qu'on puisse me donner les documents m'autorisant à construire ma petite maison. C'est ça au moins une petite difficulté que j'ai rencontrée. Sur ce, je voulais poser la première question. Comment on peut reconnaître un vrai bureau de l'urbanisme et l'habitat à qui on peut donner de l'argent et s'attendre à un bon document pouvant nous permettre de construire? Et la deuxième question, monsieur Jody, il y a certaines personnes qui construisent, c'est dans leurs propres parcelles, mais qui passent par les voies que nous appelons frauduleuses. L'État ne connaît pas qu'il était là à une parcelle, même s'il a cette parcelle-là, mais il ne se présente pas au bureau des techniques de l'État pour se procurer une autorisation de bâtir. Et parfois, on va surprendre une personne en pleine construction. Ses propos. Quelles sont les mesures qui sont prises pour sanctionner cette personne?
Bien. Merci Benjamin. On va donner la parole. On n'a plus beaucoup de temps. Malonga, vous êtes à Bandonville et Herman à Dungu. Malonga, bonjour.
À tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre question, Malonga?
Oui, ma question vraiment est regrettable. Puisque le secteur des fonciers, des titres fonciers, a beaucoup de problèmes. Heureusement, le processus de la réforme foncière est en cours dans la République démocratique du Congo. Alors, moi, je veux dire ceci. Est-ce que je peux acheter le permis ou bien l'autorisation de construire sans avoir une parcelle? Puisque il y a ceux qui achètent ces autorisations de construire ou bien ces permis de construire sans parcelle et ils viennent immédiatement construire dans une parcelle qui n'a pas le leur. Alors si il a déjà construit, s'engage beaucoup de problèmes. Moi j'ai un cas là à Kinshasa là, à l'université. Il y a ma sœur qui avait acheté une parcelle là-bas. Il vient ici à Bandundu. Bon, pour se préparer à pouvoir commencer à construire. Mais derrière lui, vous savez, la réalité de Kinshasa, les Kinois se voient seulement comme ça, ils voient une parcelle vide là-bas, ils se formalisent là-bas dans des bureaux, et puis ils construisent. Jusqu'à aujourd'hui, à Matete, ces mamans-là souffrent là à Kinshasa. Pour trancher directement ce problème, il n'est pas là. C'est elle, la propriétaire de la parcelle, mais celui qui a construit, il n'est pas propriétaire de la parcelle, mais il a d'autres documents qui lui permet de construire.
Oui.
Alors, en tout cas, le secteur là, vraiment, l'État congolais doit veiller à cela. Hein? La réforme foncière doit être vraiment en exécution. Il doit y avoir une dimension pénale pour condamner même les conservateurs, même les chefs coutumiers, que l'invité vient d'évoquer là-bas. Puisque ce sont eux qui nous mettent en confusion. Hein? Il faut que chacun, ceux qui donnent, ceux qui ont droit, c'est permis de construire là-bas, doivent descendre d'abord sur le terrain et doit demander tous les documents à celui qui vend ça de sa parcelle.
D'accord, merci Malonga, on a pris beaucoup de temps. On va terminer avec Herman de Dungu. Bonjour Herman.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai trois petites questions à poser à l'invité. La première question est de savoir que prévoit la loi pour des personnes qui construisent sans avoir un permis de bâtir. Deuxième question, cette appellation de permis de construire date depuis quand? Car chez nous, on l'appelle toujours autorisation de bâtir. Et la dernière question, l'invité peut faire la différence entre le permis de bâtir et le certificat de conformité.
Merci. Monsieur l'ingénieur Michel.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce secteur de la construction de manière générale avec le permis de construire. Mais le problème aussi, je voulais insister sur le fait que au niveau du secrétariat général urbanisme habitat, au niveau du ministère, on devait beaucoup communiquer. Il y a des gens qui se font rouler tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Au niveau des autorités compétentes à délivrer le permis, nous avons le ministre de l'Urbanisme et Habitat pour des projets d'une certaine catégorie, c'est-à-dire des projets qui sont au-delà de deux étages. Nous avons le gouverneur de la ville pour les provinces et nous avons certaines autorités des entités territoriales décentralisées. Malheureusement, ces informations, la plupart des gens qui s'engagent dans cette activité n'ont pas toutes ces informations. Quelqu'un qui est dans la ville de Kananga, c'est pas au niveau d'une commune qui va demander un permis de construire. C'est au niveau de la division urbaine de l'urbanisme et habitat à Kananga qui doit poser son problème de permis de construire.
Peut-être que la division a une représentation, un bureau au niveau de la commune.
Non. Au niveau de la commune, quand vous êtes dans une ville comme Kinshasa, vous n'avez pas un permis à demander à la commune. Vous n'en avez pas un. Mmh. Vous demandez ça à la division urbaine de l'urbanisme et habitat de la ville. Mais quand vous êtes dans les entités décentralisées, là, il y a des autorités compétentes pour ça. Donc, je crois que la plupart des gens n'ont pas de bonnes informations. Ça, c'est la première
information. Et les gens se font escroquer.
Voilà. La deuxième information, c'est quoi? C'est que le frais, la taxe, se paye à la banque pour la ville de Kinshasa, par exemple.
Mmh. Alors, et pour ceux qui sont en milieu rural.
Alors, il y a des choses que je vais dire. Il y a des agents qui demandent le frais de descente sur le terrain. Moi, je pense que si ces agents ont droit de demander le frais de descente sur le terrain, mais cela doit être inclus dans la taxe, d'une manière générale. Et au niveau même des banques où nous payons les permis de construire, ce qui est curieux, il y a des frais bancaires que vous devez payer.
C'est quoi cette histoire des frais bancaires?
Souvent, je n'ai jamais compris ça.
Lorsque les gens font des paiements pour l'État, on leur exige des frais bancaires.
Des frais bancaires. Je n'ai jamais compris. Moi, je viens payer une taxe pour l'État. On me dit non, il faut payer des frais bancaires. $50 frais bancaires plus la taxe elle-même. Ça, c'est encore un autre problème qu'on doit régler.
Alors. C'est pas une histoire d'escroquerie, là?
Bon, ça, c'est au niveau de la banque. Je comprends pas très bien qu'est-ce que c'est que ce frais bancaire. Moi, je n'ai pas de compte à banque. Je viens verser l'argent dans le compte, dans le trésor public, le compte pour le compte de l'administration publique.
Et je dois payer les frais bancaires.
En tout cas, je n'ai jamais compris ça moi-même. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que notre ami Malonga a dit sur le processus de la réforme foncière. Ça, c'est un problème que nous avons. Vous savez que jusque-là, le conservateur de titres immobiliers, il n'y a pas des actions pénales contre lui en tant qu'individu. Nous estimons que la réforme qui est en cours prendra en compte cet aspect pénal de manière à ce qu'on pénalise les actes qui sont posés par ces hauts fonctionnaires de l'État. Et autre chose que je voulais dire, c'est qu'un permis de construire, nous l'avons déjà défini au départ, c'est une autorisation administrative que doit obtenir toute personne avant la construction, que ça soit bien l'État que la personne est privée. Donc tout le monde doit obtenir ce permis-là. Mais le certificat de conformité, c'est un document qu'on délivre à la fin des travaux pour dire que l'ouvrage a été construit conformément aux prescrits du plan et conformément aux normes à la matière, ce qui fait malheureusement défaut chez nous.
Bien, ingénieur Michel Oyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, merci.
Je vous remercie, monsieur.